L'écho des gnous, votre vie dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle comme le logiciel privateur.
Bonjour et bienvenue dans le 278e numéro de l'Écho des Gnous, l'émission qui vous explique l'informatique libre. Et aujourd'hui, c'est la première de l'année, et donc je souhaite à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs une bonne et heureuse année. Et je pense que Pierre, bonjour Pierre, en fera l'appareil.
Bonjour, pareil, effectivement, bonne année à tout le monde.
Une année qui s'annonce sur la plus belle des auspices, puisque un fasciste... bientôt prend la tête des États-Unis, est flanqué d'un masculiniste qui fait des émules. Bref, on en parlera un petit peu plus tard. Mais ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Et on va commencer avec les actualités.
Famous last words.
Pardon, Pierre ?
Famous last words. Tout va bien se passer.
Rosebud. Et ouais. Donc, on va commencer, comme de coutume, par les actualités Internet et vie privée. Avant de parler de notre loustique qui fait des fusées, des voitures, on va parler d'un vieil ami qui est Apple, qui est toujours en petite bisbille avec la Commission européenne. Alors, c'est pas le seul parmi les GAFAM. Mais maintenant, la Commission européenne doit carrément leur dicter ce qu'ils doivent faire.
Exactement. Donc, jusque-là, les lois étaient... Les lois sont toujours comme ça, c'est une loi, c'est vous devez, en l'occurrence, permettre l'interopérabilité de votre plateforme. C'est un exemple, ça fait partie de ce qui a été dicté dans le DMA, on en a parlé à plusieurs reprises. Mais en fait, ça fait quelques années que Apple, clairement, joue avec les lois européennes et avec la Commission européenne en refusant d'appliquer les lois telles qu'elles ont été définies et en cherchant toutes les failles dans le texte et toutes les interprétations possibles pour tout simplement échapper au besoin d'être compatible et d'être ouvert avec les autres sur le marché.
Bon, je te rétorquerai que c'est quand même le travail des avocats.
Oui, mais il faut peut-être arrêter de se foutre du monde au bout d'un moment. La loi est là pour une raison. Chercher à contourner la loi, au bout d'un moment, ça a fini par énerver la Commission européenne. Et donc là, pour l'interopérabilité au niveau de AirDrop, notamment. Alors l'AirDrop, je ne connais pas trop, je ne suis pas dans l'écosystème d'Apple, mais globalement, c'est une fonctionnalité de communication sans fil entre les appareils Apple et des appareils compatible Apple, mais avec une bonne liste de restrictions parce qu'ils ne veulent pas que n'importe qui puisse faire du AirDrop, justement. Et donc là, pour l'interopérabilité de l'écosystème d'Apple avec AirDrop et la concurrence, la Commission européenne est allée très clairement dire « Vous devez faire ça, ça, ça et ça ». Mais ils sont allés vraiment sur des détails techniques très poussés pour dire à Apple « Non, non, c'est terminé, vous ne devez pas juste appliquer la loi, vous devez faire ça, faire ça, faire ça et faire ça ». C'est dire « Vous ne...
Vous » Ils prouvent aussi qu'on a des bons ingénieurs, des bons experts aussi à la Commission européenne, en tout cas l'Union européenne.
Tout à fait. Par exemple, là, c'est « Vous devez fournir une spécification qui permette à n'importe quel tiers d'avoir accès à toutes les informations pour intégrer, accéder et contrôler le protocole AirDrop au sein de son application ou de son service, y compris en tant qu'élément du système d'exploitation ». Et donc afin de permettre ça à ces applications et services de recevoir et d'envoyer des fichiers depuis ou vers un téléphone, un appareil sous iOS. Donc en gros, ce serait la possibilité, par exemple, depuis un téléphone Android, d'échanger des fichiers par le protocole AirDrop avec des appareils Apple. Chose qui est aujourd'hui impossible, parce que Apple a décidé de brider ça. Autre exemple, dans le texte, ils vont assez loin, ils disent... Les futures fonctionnalités et mises à jour d'AirDrop ne peuvent pas être mises à disposition de tiers après qu'elles aient été mises à disposition d'appareils Apple. Donc Apple aura l'obligation de communiquer avec les tiers avant même de pouvoir implémenter les fonctionnalités chez eux. Ils n'ont pas le droit de dire « Ah ben non, cette fonctionnalité-là, pour l'instant, il n'y a que nous qui l'avons mise en place. » Il faudra, avant même qu'elle soit mise en place pour eux, au moment où ça sort, il faut que les concurrents aient accès à l'information aussi, quoi. Donc ça va très loin et en fait... Ils en ont juste marre que Apple se foute du monde et refuse d'appliquer les règles qui ont été votées. De toute façon, on l'avait déjà vu avec l'acharnement, entre guillemets, avec le train de sanctions qui s'accumule au fur et à mesure. Là, ils commencent à en avoir assez que Apple respecte notamment toutes les contraintes imposées par les régimes totalitaires comme la Chine, alors qu'ils se fichent des contraintes d'interopérabilité demandées par l'Union européenne.
On va parler toujours d'Apple et cette fois-ci des bisbilles avec Meta, puisque bon, le règlement européen, ils le connaissent aussi, pour reprocher à Meta, donc, qui est l'entreprise qui possède Facebook et WhatsApp notamment,
Instagram,
voilà, donc quand même que... trois réseaux sociaux majeurs. Donc Apple accuse Meta d'abuser du Digital Market Act. C'est ça, hein, c'est le MC pour Market. Ouais. Il y a toujours deux confondants.
Le DSA, le service, DSA, et le Market. Le DMA, le Market.
Donc, Meta demande à Apple d'accéder aux mêmes fonctionnalités qu'eux peuvent avoir sur leurs applications, en vertu du DMA. Sauf que Apple estime que Meta abuse un petit peu et argue en fait de la protection de la vie privée de ses utilisateurs pour ne pas faire droit aux demandes de Meta. Donc notamment Apple accuse Meta de demander en fait l'accès au contenu des téléphones de ses utilisateurs, notamment le carnet d'adresses, les photos, enfin les calendriers, donc d'être très intrusif. Bon, on sait que Apple, c'est quand même, je dirais, un de leurs chevals de bataille, peut-être un de leurs arguments clés, c'est le respect de la vie privée. Bon, à défaut d'être un de leurs arguments. Alors, à défaut d'être complètement clean quant au respect de la concurrence, mais ça, c'est un autre débat. Résume.
Là, en gros, c'est Apple ne veut pas d'interopérabilité, ne veut pas être interopérable avec les autres, et Apple se plaint quand les autres aussi. Demande à appliquer la loi et à accéder au.
J'ai du mal à voir en fait en quoi les demandes de Meta sont quand même légitimes. Parce qu'on sait que voilà, l'article en parle. Le fait est que Meta, donc c'est essentiellement Facebook, c'est leur premier service, même si WhatsApp et Instagram prennent quand même de l'importance, leur business model c'est quand même piller notre vie privée.
Alors, sauf que c'est un rapport d'Apple. La base pour ça. On n'a pas les demandes initiales de Meta, on n'a pas la réaction de Meta à ça.
C'est pour ça que c'est quand même difficile de tirer les.
On peut pas tirer la conclusion, il faut s'attendre à ce qu'il y ait de la mauvaise foi de part et d'autre. Clairement, il est probable que Meta ait demandé plus de données parce que c'est dans leur business model d'obtenir le plus de données possible pour les meilleurs revenus publicitaires. Mais de la part d'Apple, il faut s'attendre aussi à de la mauvaise foi, notamment pour essayer de bloquer Apple à ses propres. Lunettes de réalité virtuelle, je ne sais plus le nom. Il me semble qu'ils ont leurs propres lunettes de réalité virtuelle et Meta a aussi ses propres lunettes.
Meta a racheté Oculus, si je ne dis pas de bêtises.
Genre, je ne sais plus le rachat.
Oculus, c'était quand même les origines. Oui,
mais je crois que c'est dans la famille de Meta maintenant, Oculus. Mais voilà, Meta a un intérêt à avoir accès à certaines fonctionnalités du système pour faire fonctionner ses lunettes. Est-ce que c'est ce qui a posé problème? On n'a pas les détails. Donc, pour l'instant, c'est un rapport uniquement d'Apple. C'est quand même assez biaisé, on va dire. Autre élément aussi pour lequel Meta pourrait très légitimement demander plus d'éléments sur les iPhones, Meta pourrait vouloir, par exemple, l'interopérabilité entre WhatsApp et iMessage. Et vous échangez sur iMessage avec quelqu'un, mais en fait, le quelqu'un, il est sur WhatsApp et vous avez ça de manière transparente. Ça, c'est quelque chose qui pourrait être très tentant pour Meta et pas du tout intéressant pour Apple. Et c'est quelque chose qui rentre clairement dans le cadre du DMA. Normalement, il y avait sur la messagerie, c'est une base qui a été demandée par la Commission européenne.
Bon, c'est sûr qu'il y a quand même un protocole qui existe depuis 20 ans.
Oui, mais qui est utilisé derrière, mais en fait.
Avec des serveurs fermés.
À l'occasion. On parlera.
Du coup, on va continuer avec Meta. Alors, on va commencer à parler de modération. Alors, si vous avez suivi un peu l'actualité, vous savez qu'il va y avoir quelques nouveautés. 140 modérateurs kényans. J'ignorais que Meta employait des kényans pour ça, notamment.
C'est moins cher.
C'est moins cher.
Voilà, c'est moins cher, monsieur.
Ils sont anglophones, donc effectivement, ça couvre quand même une bonne partie de la base d'utilisateurs de Facebook, donc sont victimes de stress post-traumatique, notamment puisque la modération vise aussi à éviter que des contenus violents soient publiés sur le site. Après, je n'utilise pas Facebook, donc je ne peux pas le dire. Alors WhatsApp, je comme c'est des conversations privées, je ne pense pas qu'il y ait de modération, en tout cas à vérifier, mais je ne pense pas. Donc, en sachant que voilà, la modération, ça inclut aussi certaines choses qui, en France, en tout cas en Europe, passeraient beaucoup mieux, puisqu'il y a quand même une vision assez puritaine, je dirais,
On n'est pas sur ça, là.
Notamment, enfin, je parle du contexte général, Pierre.
Ouais, là, il n'y avait pas besoin de parler de...
Ça. Mais bah, effectivement, donc, les modérateurs de Facebook sont donc exposés à des messages très violents, à des images très violentes. Donc ça crée un phénomène de stress post-traumatique, hein, donc, qui est habituellement donc, une maladie professionnelle, si on veut dire ainsi, bah, des militaires qui ont été déployés sur un théâtre d'opération.
Que, ça peut être aussi pour des soignants, ce genre de situation.
Non, on entend surtout parler pour les militaires.
Oui, pour les militaires, oui. Mais là, en l'occurrence... alors. Je ne vais pas m'amuser à lister tout ce qui est passé dans la presse comme source de ce stress. Mais ce qu'ils ont vu, c'est aller jusqu'à les faire s'évanouir, vomir ou s'enfuir de leur bureau en voyant les choses, tellement c'est horrible. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent à travers la modération de Facebook. Parce qu'ils mettent en avant, ça c'est très fréquent, hein. Ils disent oui c'est automatique, il n'y a pas d'humain derrière. Alors qu'en fait, si, c'est des humains derrière qui font tout le sale travail. Et là, c'est quand même allé extrêmement loin. Les modérateurs, il y en a un certain nombre qui souffrent maintenant d'addiction à l'alcool, à la drogue ou aux médicaments, qui souffrent de dépression profonde parce que juste, ils ont vu des choses. Rien que lire les titres, moi j'ai même pas envie de voir ça. J'avoue, j'ai même pas envie de dire ça à la radio. C'est vraiment pas possible. Alors là, certains expliquent au niveau des conséquences sur leur vie, sur leur santé. Casser des briques contre la façade de sa maison n'est pas une façon normale de se détendre après le travail, ou pas plus que de se mordre le bras ou d'avoir peur de s'endormir.
On est quand même sur des pathologies.
C'est extrêmement dérangeant. Ils ont vu des scènes les scènes les plus horribles possibles. Ça ne passerait pas dans un film d'horreur. Hein. C'est impossible. Et en fait, l'une des conclusions de l'une des victimes, c'est que c'est un travail qui ne convient pas à des êtres humains. Un travail donc littéralement inhumain. Heureusement, mais t'as une solution pour ce problème.
Et plus de modération.
Voilà.
Alors par contre, je suis pas sûr que... Alors on parle de plus de modération, notamment, en fait, il y aura plus de fact-checking. Alors ça quand même fait plutôt les gros titres, donc quand même des chances que nos auditeurs les moins branchés sur les activités technophiles soient déjà au courant. Mais on a normalement, je pense que pour pouvoir fonctionner en France, je pense que de toute manière, il y aura un minimum de modération sur les contenus violents.
Il y aura le minimum.
Il y aura le minimum. Par contre, oui, la partie fact-checking, elle va tout simplement être supprimée, puisque voilà, c'est la liberté d'expression qui est à respecter. Et voilà, dans cette optique-là, ils considèrent, dans le sillage l'air trumpiste, que la liberté d'expression, ça consiste également à laisser dire n'importe quoi sur n'importe qui. Alors en France, il y a aussi les lois sur la diffamation, qui ne sont pas forcément les mêmes qu'aux États-Unis. Donc,
Il y a déjà un temps de latence entre le moment où quelqu'un va poster une saloperie sur le réseau social et le moment où ce sera supprimé. Si maintenant, il n'y a même plus la modération, qu'il faut passer par des étapes beaucoup plus lourdes, beaucoup plus longues pour obtenir la suppression d'un contenu diffamant, ça ne va pas s'améliorer.
Donc, ce que compte faire Facebook, en tout cas aux États-Unis, c'est utiliser la même politique que sur X, c'est-à-dire anciennement Twitter. Donc les notes de communauté. Donc, là, en fait, les utilisateurs de Twitter peuvent signaler que des propos sont, à leur sens, mensongers. Et si la note a suffisamment de votes, elle est publiée en dessous du tweet. En général, ça marche à double tranchant, hein, c'est un peu le problème de... Oui, puis... C'est aussi vulnérable aux trolls, hein, et ben le voilà, troll d'extrême droite sur X, et ça ne va pas s'arranger, est quand même une espèce en voie de pullulation, si je puis dire ainsi. Donc je parlais de... virage Trumpiste, puisque voilà, on sait que Elon Musk, qui a racheté X et qui a divisé sa valeur par 4, enfin sa valeur boursière par 4, hein, on applaudit le champion de l'entrepreneuriat. Bon, même si on pourra dire qu'il a quand même monté une entreprise de voitures.
Non.
Ah, bon, non. Ça, quand même. Bon. Et des vaisseaux et des sociétés lanceurs, bon, quand même avec de grosses subventions de la NASA. Bon, ce qu'on ne dit pas, c'est non plus que Monsieur Musk est également le fils d'un patron.
Oui, c'est un fils de riche. Hein.
Oh, en Afrique du Sud, hein. C'est pas vraiment le profil d'un self-made.
C'est extrêmement rare les self-made men. Donc voilà, faut. Faire
et donc Monsieur Zuckerberg, qui était plutôt, on va dire, en retrait sur ce genre de choses, eh ben, a décidé, voilà, de collaborer. Et donc, oui. Il a, lors d'une interview, annoncé qu'il voulait plus d'énergie masculine, qu'il sentait qu'il ne fallait pas émasculer la création. Donc, il a décidé de mettre à la poubelle également sa partie politique d'inclusivité, donc, pour aider à ce que des minorités sexuelles, ou une minorité du tout, les femmes, qui sont quand même une majorité, hein, soit plus présente donc dans son entreprise. Et, voilà, donc tout simplement décidé de suivre la vague un peu fascisante.
Oui, complètement, hein. Tu veux dire,
hein, complètement. C'est-à-dire que je sais pas si tu connais le film Canadian Bacon de,
non, ça me dit rien,
de Michael Moore. C'est un film satirique parodique de 1995 où Michael Moore projetait donc de voir un président en quête de popularité qui voulait remonter sa cote de popularité en désignant un nouvel ennemi et en envahissant le Canada.
D'accord. Ah tiens, tiens, c'est l'actualité, effectivement.
C'est bizarre, j'ai pas trop entendu parler. Moi, ça m'a fait penser à ça. Je propose que l'on passe un premier morceau de musique. Le premier morceau de musique de l'année, ça va nous détendre un petit peu, ça va détendre l'atmosphère. Nous allons écouter Pierce Murphy, Pearl Simon. Vous écoutez l'écho des gnous sur Radio Campus 106,6. La radio numérique terrestre et campus.com. Sweet for salmon, honey dripping between your teeth. Stolen from the chapel garden like a lovely Eve. Down the road that's unforgiving, I hold the treasure to your lips. I throw the mist of the valley, as sacred as it is, to the sea, dancing for us, a wild nectar rise. My cradle rocking gently in the wind for a life that's plucked from paradise by your careless hand. Murphy, Pierre Simon, vous écoutez l'écho des gnous sur Radio Campus 106,6 et tout le reste, je ne vais pas vous le faire à chaque fois, je pense que sinon nos auditeurs vont commencer à avoir les oreilles qui sifflent, mais bon, un petit peu fatigué. Donc j'espère que la deuxième partie des actualités, quant à elle, ne vous fatiguera pas les oreilles. Et on va parler d'intelligence artificielle ou de stupidité naturelle, comme dirait Pierre. Je ne sais pas ce qu'il en est réellement. Donc, les résumés d'actualité par une intelligence artificielle, est-ce que c'est une vraie mauvaise idée?
Ben, là, pour le je coup, crois que là, ça a été démontré. Ça a été démontré, voilà. Enfin, alors, encore eux, mais bon, là, c'est tombé sur eux, ça aurait pu tomber sur n'importe quel bot qui fait ça.
Ça montre déjà, en préambule, que l'esprit de synthèse, ça nécessite quand même une intelligence humaine.
Tout à fait. Et donc, là, il s'agit de l'intelligence artificielle. Alors, elle n'est pas déployée encore en Europe parce que protection de la vie privée en Europe et les diverses lois qui font que le fonctionnement n'est pas autorisé en Europe comme ça. Il s'agit donc de Apple Intelligence, cette fois, qui dans ses nouvelles fonctionnalités, c'est des résumés automatiques des actualités. Et donc, là, notamment, les utilisateurs d'iPhone aux États-Unis qui ont activé cette fonctionnalité ont pu apprendre l'arrestation de Benjamin Netanyahou.
J'ignorais.
Voilà, il a été arrêté, il paraît. Et ils ont appris quoi d'autre ?
Pas avec Sarkozy ?
Ah non, c'est pas confondu. Ils ont aussi annoncé le suicide de Luigi Mangione, je sais pas comment le prononcer.
Ah, le mec qui a meurtrié un patron de mutuelle.
Ouais, celui qui s'est rendu à la police et qui est donc toujours vivant. Ils ont annoncé son suicide. Et en fait, clairement, l'intelligence artificielle, on voit très bien les limites de la chose. On n'a pas créé un algorithme, on n'a pas créé un programme pour résumer. On a créé des modèles statistiques qui comprennent, qui savent appliquer un résumé sur un ensemble de textes de départ. Sauf que s'il y a eu des erreurs dans les textes de départ, déjà, le modèle risque d'être biaisé et de reproduire les erreurs. Et si le texte qu'on lui demande de résumer ne colle pas exactement à un des modèles qu'il a déjà eu, ça peut tomber dans des biais et faire ce genre d'erreur. C'est aussi simple que ça. Pourquoi est-ce que ça nécessite un humain de faire ce genre de choses? Parce que l'humain comprend réellement le texte, alors que l'IA ne comprend pas. L'IA n'a pas la notion de compréhension. L'IA a une notion de je sais résumer un texte, mais elle ne comprend pas le sens des mots. Donc c'est compliqué. En fait, on n'a jamais.
Ça simule un texte qui ressemble à quelque chose. De manière statistique, c'est que.
Après, je simplifie énormément. Hein, enfin, toute une dégicalisation sur ça, mais sur le principe de faire un résumé, c'est pas si simple de faire un résumé, et voilà, il y a toujours le risque que l'IA fasse n'importe quoi, et qui est responsable de ça?
C'est compliqué l'esprit de synthèse, hein. Exact en peu de mots, c'est un vrai exercice de style, hein. Et c'est pas, même on peut dire pour un humain, c'est quelque chose de simple. On va continuer avec l'intelligence artificielle. Tiens, on revient avec Meta. Meta qui s'est donc autorisé à violer les droits d'auteur pour entraîner son intelligence artificielle.
Voilà. Alors, Alexandre me disait pendant la pause musicale qu'il n'y a rien de nouveau là-dedans. Effectivement.
C'est quand même une nouvelle. C'est presque un marronnier maintenant chez nous. Hein.
Oui, c'est un marronnier le fait que les intelligences artificielles soient entraînées sur des données qui, normalement, vous n'aviez pas le droit de les utiliser. Ce qui, du coup, fait se poser deux questions. D'abord, à quel point ils sont allés loin pour autoriser ça? Et donc là, c'est là où l'actualité est intéressante, c'est qu'on a appris que c'est directement Mark Zuckerberg, donc le PDG de Meta, qui a autorisé l'entreprise à utiliser des ensembles de livres et d'articles piratés pour son entraînement. Il a signé, il a dit « Non, c'est bon, utilisez ça, c'est bon ». Et la deuxième question que ça pose, c'est « Meta a la force financière pour se permettre de violer la loi ». C'est là où c'est vraiment problématique. Ils s'en foutent. Mais ça veut dire aussi, si quelqu'un veut se lancer dans l'intelligence artificielle et veut concurrencer ses grosses boîtes, il a intérêt à avoir un budget colossal pour pouvoir se permettre de violer la loi. Parce qu'au final, ça revient à ça. La qualité des intelligences artificielles dépend de la qualité des données d'entraînement. Donc si vous n'avez pas accès à tout le contenu, faut soit être capable d'acheter les droits quand on peut les acheter, soit être capable de payer les amendes et ça ne va pas être donné. Accessoirement aussi, on en reparlera peut-être à l'occasion plus tard, mais l'une des difficultés pour l'entraînement des intelligences artificielles qui a été démontrée par des chercheurs, c'est que si vous entraînez des intelligences artificielles avec des données qui ont été générées par des intelligences artificielles, vous avez une dégradation de la qualité de l'apprentissage. Parce que l'intelligence artificielle ne crée pas de contenu original.
On va parler d'un de nos fachos préférés. Il a rendu hommage à Wikipédia. Pour moi, je prends ça comme un hommage, puisque Elon Musk a appelé à ne plus faire de dons au projet Wikimedia.
Oui, voilà, oui.
Et soutient le parti d'extrême droite, l'AFD.
Bon, oui, voilà, il soutient l'AFD en Allemagne. Mais en fait, clairement, ça m'a fait très mal d'être d'accord avec lui, mais j'étais d'accord avec les propos de Manu Macron à ce sujet. Comme quoi Elon Musk est effectivement à la tête d'une.
Il joue un peu sur le.
International réactionnaire.
Ouais, enfin, c'est-à-dire qu'il en prend sa part en France aussi.
Ah oui, hein, tout à fait, oui.
C'est-à-dire que, oui, c'est un peu. Alors là, on n'est pas là pour
critiquer. L'hôpital qui soude la charité.
Voilà, critiquer Macron, mais il joue un peu un double jeu entre à l'étranger. Voilà, il se présente comme un progressiste et en France, il légitimise les thèses du Front National, de l'extrême droite. Traite d'extrémistes tout ce qui est à gauche du MoDem. Hein. Donc,
voilà, oui.
Bon, ça, c'est pas nouveau chez lui. Hein. Bon.
Mais donc voilà, en Allemagne, ça choque énormément qu'il ait soutenu publiquement l'AFD, donc l'équivalent du Front National chez nous. Et du côté effectivement de Wikimedia, Elon Musk a publié sur Twitter un message demandant à ce que les gens arrêtent de faire des dons à Wokpedia. Hein, on sent les mêmes relents d'extrême droite que chez nous.
Et je pense que Wikimedia pourrait s'en servir presque comme un argument.
C'est ça.
C'est presque, je dis, c'est un hommage en fait.
Et en fait, l'accusation, c'est que comme au sein de Wikimedia, et on en reparlera, enfin, il y a un lien aussi avec l'actualité par rapport à Facebook qu'on a mentionné juste avant. En fait, Wikimedia travaille sur des principes de diversité, d'équité et d'inclusion. Et en fait, les mouvements conservateurs aux États-Unis assimilent ces principes à du woke, en disant voilà, c'est.
Oh, il n'y a pas qu'aux États-Unis. Hein.
Oui, oui, mais. Ah. Là, ça vient des États-Unis, tout ce bordel-là. Donc, voilà. Et donc, l'attaque, c'est de dire Wikimedia, la fondation Wikimedia, dans son budget, a un budget pour les principes d'équité et d'inclusion. Donc, si vous financez Wikimedia, vous financez ça. Donc, il faut arrêter de financer Wikimedia.
Parce qu'il y a une radio qui fut autrefois une grande radio généraliste, une grande radio d'information, qui a publié un tweet « Wokisme, en école de police, des cours sur la haine anti-LGBT
mm-hmm. ».
Voilà à quoi, même en France, ouais. C'est une radio qui a viré radio d'extrême droite, et pourtant une belle radio historique,
ce serait
la trouver. On va parler un petit peu sécurité, Pierre ?
Ouais.
Les backdoors, tiens.
Oui.
Les backdoors, c'est stupide. On l'explique depuis longtemps et on en a une nouvelle preuve.
C'est ça. Donc, petit rappel,
qu'est-ce qu'une porte dérobée
en bon français. Tout à fait. Une porte dérobée, c'est très simple. On en a déjà parlé à plusieurs reprises. Les politiques en parlent aussi parce que ça serait quand même beaucoup plus simple, hein, voyez-vous. L'une des plus fréquentes, c'est concernant toutes les plateformes de messagerie et donc leur chiffrement. Lorsque vous avez une plateforme de messagerie, un chiffrement de bout en bout, en théorie, personne n'a accès à la communication à part l'émetteur et le destinataire. C'est normalement, les serveurs entre les deux n'ont pas accès. La théorie. Et les forces de police aimeraient bien, dans ces cas-là, avoir des portes dérobées pour accéder au contenu des conversations. Y compris, de préférence, a posteriori, une fois qu'elles ont été faites, mais voilà, elles ont été sauvegardées et puis on y a accès. Et il y a des, portes dérobées.
A priori, c'est quand même compliqué. Avoir accès à une conversation avant qu'elle... Enfin bref.
Non, mais qu'elle soit stockée, archivée, voilà. À posteriori, pendant un certain temps. Et donc, il n'y a pas que là-dessus où il y a des backdoors. Il y a des backdoors depuis une loi en 1994 aux États-Unis pour permettre au FBI d'accéder à des données échangées au niveau du réseau téléphonique. Et il se trouve que là... Mince, il y a plein d'opérateurs américains qui se sont fait pirater par la Chine et la Russie, apparemment, à travers cette backdoor.
Une backdoor, c'est que voilà, on part du principe que cette faille, il n'y a que ceux qui sont au courant qui peuvent la connaître.
Oui, sauf
les seuls à qui on a informé. Sauf qu'en vrai, ça ne marche pas comme ça. Exactement. Une faille de sécurité, elle finira fatalement par être découverte par des gens mal intentionnés.
Exactement. Et en fait, là aussi, à l'époque, ben, ça a été chiffré avec le top du top à l'époque, quand ça a été conçu dans les années 90. On n'est plus dans les années 90, la technologie n'est plus la même. Le top du top de l'époque ne marche plus aujourd'hui. Donc voilà, une backdoor, c'est stupide. En voici la preuve, c'est des problèmes de... pour le coup, de sécurité nationale.
De toute façon, Pierre, avec l'ordinateur quantique, tout notre chiffre...
Oui, oui, oui. Hein. Ah, allez, bon, on a encore la marge. Ah.
Mais si, j'ai entendu il y a 10 ans.
Oui, voilà.
Je propose une petite décalisation. Et avant, on va écouter un autre morceau de musique. Nous allons donc écouter Talking Cures, Mad Lover. Vous écoutez l'écho des gnous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campusil.com. Mad Lover, vous écoutez l'écho des gnous sur Radio Campus, c'est la version ralentie de l'émission. Un petit ton de Ségolène Royal. C'est l'heure de la séquence que vous attendez toutes et tous, c'est l'heure de la dégeekalisation. La division qui rend flou, et non, on ne vous parlera pas du bug sur le Pentium premier du nom il y a 30 ans.
Voilà, ceux que ça intéresse peuvent m'envoyer un mail à l'émission et puis comme ça je vous enverrai un lien vers ASIC sur le bug du Pentium. Maintenant on a trouvé exactement les puces sur la puce elle-même, l'erreur, c'est très intéressant comme article, mais c'est pas du tout radiophonique et c'est quand même assez complexe, donc je ne me lancerai pas dans une explication de tout ça. Non, je vais parler plutôt de division qui rend flou. Alors, moi, j'ai pensé à ce sujet-là il y a quelques semaines, peut-être quelques mois, parce que ça m'est arrivé. Et je me suis dit, ben tiens, c'est vrai, je ne pense pas avoir déjà expliqué ce problème.
Mais tu vas nous l'expliquer.
Effectivement. Mais... tout d'abord, on va parler un petit peu de développement d'applications graphiques. Si vous le voulez bien. Donc, je suis développeur, je veux créer une fenêtre avec un bouton dessus. On clique et ça fait des choses, voilà. Donc, dans mon code, je dis, ben, je voudrais une fenêtre de 200 par 200 pixels. Et à 40 par 40 pixels, je voudrais mettre un bouton. Et puis quand on clique sur le bouton, on va mettre le texte Toto et on va mettre une icône à côté. Voilà, l'icône, c'est cette image-là de 32 par 32 pixels. Et puis quand on clique, ça fait pouette. Voilà. C'est très compliqué. Cette façon de faire des applications graphiques, c'est ce qui se fait depuis les années 80. Toutes les applications Windows ont toujours été conçues comme ça. Les applications X11, donc les applications graphiques sur Linux et Unix, ont toutes été codées comme ça. C'est bien, c'est très simple. Sauf que il y a un énorme défaut là-dedans. Il y avait un détail dans tout ce que j'ai dit qui était un défaut majeur. Je fais une fenêtre de 100 par 100 pixels. Et je place mon bouton à 40 pixels.
Puisque ça dépend donc de la définition, ça peut s'afficher plus ou moins bien.
Effectivement. Et on arrive sur un problème technique fort rigolo. On arrive sur les écrans modernes. Alors, moi, c'est un problème que j'ai connu déjà depuis très longtemps parce que je suis quelque peu bizarre et je n'aimais pas le fait que mon ordinateur ne comprenne pas la résolution réelle de mon écran. D'ailleurs, la résolution de l'écran, on parle de résolution 1920 par 1080. Ça, c'est pas la résolution, en fait. C'est compliqué, parce que tout le monde appelle ça résolution. Windows continue d'appeler ça résolution, hein. Même là, nous sommes en 2025, Windows continue d'appeler ça résolution.
Et,
hein.
Et on vous épargnera la blague sur la bonne résolution pour cette année.
Tout à fait. La résolution de l'écran, ce n'est pas un nombre de pixels par nombre de pixels. Ça, c'est la surface d'affichage. La résolution, c'est en DPI, c'est le nombre de points par pouce. Merci les Américains. Donc imaginez, voilà, sur 3 cm, il y a 96 pixels. Ça, c'est la résolution standard que tout le monde a appliquée tout le temps dans les années 80, 90, 2000. En se disant, bah, c'est pas grave, si ça colle pas vraiment avec les écrans, ils sont pas loin de toute façon.
Et ça marchait donc avec les écrans cathodiques.
Avec les écrans cathodiques, protestants, les écrans LCD, ça marchait très bien. Sauf que ça a commencé à merder quand on a introduit des écrans avec une plus haute résolution d'affichage. Non pas plus de pixels par plus de pixels, mais plus de pixels par pouce. Pour avoir une définition plus fine. Parce que là, sur un écran, alors là, je suis sur un écran de... Alors un écran...
L'écran de Radio Campus,
oui, voilà. Là, on voit pas trop les pixels. Je pense que si je m'approchais de l'écran, mais que je m'éloignais du micro, je pourrais pas dire, je pourrais commencer à voir les pixels parce que c'est pas un écran non plus avec un affichage Retina pour reprendre la marque d'Apple ou je ne sais pas quels autres termes sont utilisés par les autres vendeurs. Mais si j'avais une plus haute résolution, là, un problème se poserait. C'est que le texte qui est censé être affiché sur 10 pixels, là où il prend 5 mm, 10 mm sur mon écran actuel, sur un écran avec une plus haute résolution, bah là, il va en faire 2. C'est un problème. Et donc, on a décidé, plutôt que de dire bah, « il faut réécrire toutes les applications de la Terre », problème, et réécrire tous les frameworks et tout le... Voilà, impossible en fait. On a fait un tel gros merdier qu'il n'y a plus moyen de le corriger. On n'y arrivera pas, les gens. Du coup, la solution, ça a été de dire, bon, bah, on va faire du scaling, de la mise à l'échelle. Et donc, on va multiplier ou diviser les tailles des textes par un nombre. Pour dire, bah, on va zoomer. Et c'est là où on a un petit problème. C'est que, imaginons, vous avez un texte de... Alors, vous avez un dessin qui fait, mettons, 10 pixels de long, vous faites une mise à l'échelle à 1,25. Donc, vous avez besoin maintenant de 12,5 pixels. Comment qu'on fait un demi-point ?
Alors, on arrondit comment ?
C'est compliqué. Donc, on doit arrondir. Et on se retrouve, du coup, avec du flou. C'est un cas qui arrive. Alors, moi,
c'est du déformement, du coup.
Pardon ?
Du coup, les proportions ne sont plus respectées.
Si, on multiplie dans les deux sens, donc les proportions sont gardées.
Mais du coup, tu dois arrondir des deux côtés, tu peux te retrouver... Justement, tu te retrouves avec les bonnes proportions.
Ça peut légèrement bouger. Et donc, c'est pour ça qu'on observe... Alors, sous Linux, ça s'observait pas trop jusqu'à maintenant, mais maintenant que tout le monde commence à passer massivement sous Wayland, c'est un problème que moi, j'ai observé juste parce que j'avais une application qui n'était pas Wayland, et qui était en X11 sur mon PC, donc qui utilisait l'ancien modèle d'affichage, et sur cet ancien modèle, c'était moins bien géré, et du coup, bah, j'avais une application qui était légèrement floue, où le texte était clairement moins net que les autres, parce que bah, la mise à l'échelle de 1,25, et du coup, bah, ça ne colle pas. Et c'est pareil, vous avez le même phénomène pour certaines applications, que ce soit sous Windows ou sous macOS. Je ne sais pas pour les smartphones, je vous avoue, je n'ai pas creusé le sujet au niveau des smartphones, parce que les smartphones ont toujours eu des écrans avec une plus haute résolution, en tout cas ça fait vraiment longtemps qu'ils en ont. Mais donc sur vos ordinateurs, vous pouvez avoir ce problème-là encore. Et bah, malheureusement...
Ça concerne, excuse-moi Pierre, que les anciennes applications ou même des applications très récentes, genre un Firefox à la dernière version, peut avoir ce genre de problème.
Alors, en général, les applications récentes, les développeurs sont au courant. Ils savent qu'il faut, respecter les règles de mise à l'échelle parce que les applications peuvent participer, elles peuvent aider le système d'exploitation, elles peuvent, dans le cas de Linux, l'application, si elle parle directement le protocole Wayland, elle est au courant qu'il y a des mises à l'échelle. Encore que, parce que dans certains cas, les mises à l'échelle, justement pour éviter ces problèmes de flou, certains avaient dit « Ouais, mais la mise à l'échelle, dans ce cas, il faut juste que ce soit des nombres entiers. On multiplie par 1, ou par 2, ou par 3. » Mais en fait, c'est trop gros si on multiplie la taille du texte et des icônes par 2. Il faut mettre 1,25 ou 1,5, ça dépend des cas. Donc, c'est le bordel. Il n'y a pas d'autre mot, c'est le bordel. Et c'est ce flou, c'est uniquement parce que on a enterré un bug des années 80. Et c'est pas grave. En fait, c'est parce que normalement, on ne devrait jamais parler en pixels. On devrait parler, par exemple, en points. Le point est une unité qui, elle, est fixe en termes de taille. C'est une unité que vous allez utiliser dans un traitement de texte pour la taille des polices. Et normalement, tout devrait être défini en points. Mais, manque de bol, ça n'a jamais été le cas pour la définition d'interface graphique. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve avec ce joli bug.
D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, je ne fais pas trop de dev web, mais le CSS, c'est aussi défini en pixels.
Alors non, le CSS, on peut le définir en pixels, en points, en centimètres, en type du parent. Il y a plein de définitions possibles.
Je suis pas des web, moi.
Non, moi non plus. Mais je sais que c'est le bordel. Et en fait, selon derrière, justement, les effets de zoom des systèmes ou autres, vos dimensions en centimètres, du coup, peut-être qu'elles seront pas respectées sur l'écran final. Puisque vous pouvez pas savoir.
Merci Pierre pour cette dégeekisation. La première de l'année, comme de coutume, fort instructive. Nous allons, pour fêter ça, comme un meilleur mood qu'après la deuxième partie, nous allons donc écouter Yigit Attila, Graceful. Vous écoutez les codes nous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campusil.com. C'était Yigit Attila, Graceful. Vous écoutez l'écho des gnous sur Radio Campus. On va parler actualité logicielle, mais également matérielle, puisqu'on va commencer par du matériel. On va commencer par notre famille historique du processeur, le X86. Donc, famille qui a donc été conçue par Intel. Mais Intel reconnaît ne plus en contrôler l'avenir.
Exactement. Alors, je ne me suis pas amusé à chercher dans l'historique des émissions. Je suis sûr que vous vous souvenez tous de l'émission où j'expliquais le lancement du X86S par Intel.
Hein, enfin, j'ai l'historique de nos 277 voilà. Émissions précédentes.
Donc, Alexandre, c'est dans laquelle je ne sais plus non plus.
La 42.
Voilà, non, beaucoup plus récent que ça. Donc, en fait, il y a le X86, donc c'est le langage de nos processeurs de PC. Pour rappel, lorsque les processeurs de PC en question étaient lancés, à l'époque en tout cas, il était nécessaire, pour être accepté comme fournisseur de puces pour différents usages, d'avoir des clones disponibles. Donc c'est pour ça qu'à l'époque, au lancement du 8086 et du 186, etc., ben, il y a eu AMD, Cyrix et autres qui ont été autorisés à faire leurs clones du 386, des X86 à l'époque. C'est de là que AMD a sa licence qui lui permet de faire du X86. Mais aujourd'hui, Intel l'admet. Ils voulaient développer dans leur coin le X86S, alors c'est en gros du gros ménage du X86, parce que ben, au bout de 40 ans de technologie, même plutôt 50 ans de technologie, il y a des trucs à nettoyer quand même, qui feraient du bien.
On a empilé les couches sédimentaires.
Hein. Ouais, voilà, on en a empilé beaucoup, il serait temps d'en enlever.
On en a parlé la semaine dernière d'ailleurs, les différentes bibliothèques, strates, ouais, enfin, voilà. Les différents jeux d'instructions qui sont supportés au fur et à mesure des générations.
Voilà, tout à fait. Et donc, ben, c'était de dire, ben, il serait temps de faire le ménage dans tout ça, mais ben en fait, Intel a jeté l'éponge et a dit ben non, on ne peut pas le faire tout seul. Et maintenant, il y a le X86, groupe de conseil de l'écosystème X86, traduction en direct approximatif.
Il y aura une fondation X86.
Voilà, et donc qui inclut Intel, AMD, mais aussi des entreprises comme Google qui vont en fait travailler ensemble désormais à l'avenir des processeurs d'ordinateurs.
Bah, AMD, l'arrivée de l'AMD 64 a quand même, mis un coup de canif dans le contrôle d'Intel sur le X86.
Tout à fait.
Et je parle d'il y a 20 ans, plus.
20 ans à peu près.
Un peu plus de 20 ans.
22. Voilà, c'était 2003-2004 cette période-là. Mais donc voilà, c'est... Maintenant, c'est officiel, Intel admet ne plus être le seul maître à bord pour le X86. Historiquement, c'est un changement majeur. Maintenant, en pratique, ça ne changera pas forcément grand-chose. Peut-être que ça va déscléroser l'évolution du X86 et des processeurs. Peut-être que ça donnera un petit souffle pour mieux lutter contre les plateformes comme les plateformes ARM, parce que ces plateformes-là n'ont pas tout cet historique qui entrave quand même un peu la progression de nos ordinateurs. Donc à suivre, ça va être intéressant techniquement, mais voilà, c'est politiquement, je trouvais que là, c'était un moment qui méritait quand même d'être noté.
La Linux Foundation a désormais un groupe de développement sur Chromium, qui est la base libre du navigateur de Google Chrome.
Tout à fait. Alors, j'ai pas compris si c'était une bonne ou une mauvaise nouvelle, j'avoue. Moi, en fait, pour ma part, je trouve quand même que c'est plutôt une mauvaise nouvelle. C'est que donc la Linux Foundation.
Moi, je savais pas que la Linux Foundation s'intéressait à des applications desktop.
Si, si, il s'intéresse à des projets libres divers et variés. Mais donc là, notamment, c'est un ensemble d'entreprises ou de groupes qui développent des navigateurs basés sur Chromium qui se sont mis ensemble pour travailler sur l'amélioration de Chromium. Et donc, les entreprises en question, c'est Google, Meta, Microsoft et Opera, qui sont mises ensemble pour, on veut développer Chromium tous ensemble. Mais ça ne va pas régler deux problèmes majeurs, qui sont, un, le fait que Google reste le maître à bord sur Chrome. Il n'y a rien qui a été écrit là-dedans comme quoi Google n'était plus le seul à prendre les décisions uniquement dans son coin. Et ce qui est très important vu les conséquences sur l'exploitation de la vie privée par Google au quotidien. Et le deuxième point, c'est que ça n'aide en rien, c'est même au contraire nocif pour la diversité du monde des navigateurs web. On est sur un web où, très clairement, en tant qu'utilisateur de Firefox, je n'ai pas accès à certains sites. Je crois qu'il y a quelques jours...
Ça peut arriver de voir utiliser...
Quand c'est pour demander une vignette critère, faut peut-être pas se foutre de la gueule du monde. C'est gênant. C'est pas normal de ne pas avoir accès à ça. C'est pas normal, même si c'est pas surprenant, quand Google s'amuse à saboter YouTube pour que YouTube, ah ben c'est dommage, il est moins optimisé sur Firefox. Zut! Mince, on n'a pas fait exprès.
Oui, il fonctionne bien sur Firefox mobile.
Oui, mais voilà, c'est la version mobile, la version desktop, c'est pas forcément la même limonade. Et puis ça dépendra du moment, hein, aussi, ça dépend. Bref, je suis assez sceptique sur cette initiative. Alors certes, ça va peut-être aider à ce que Chrome soit moins contrôlé par Google, mais Google a quand même une emprise majeure sur le projet. Je vois pas ce que ça va changer là-dessus.
2025, l'année du desktop. Alors pour ceux qui sont, c'est un peu, on va dire une private joke, mais une blague pour initier, puisque l'année du desktop est annoncée tous
depuis,
les ans depuis
40 ans.
Ouais, bon, peut-être pas 40 ans,
un peu moins, non, moins 30 ans.
Au moins
depuis 30 ans.
30 ans peut-être. Ouais. Et donc l'année du desktop, Pierre, peut-être avec SteamOS.
Tout à fait. C'est alors. Donc l'année du desktop Linux, effectivement, on en parle depuis longtemps, mais on ne la voit pas. Est-ce que 2025 sera l'année où Linux prendra le pas sur Windows, sur le monde de l'ordinateur, enfin, le monde du desktop, le monde du bureau? Clairement, je vais déjà répondre non, évidemment, c'est une blague. Mais cette année pourrait voir une évolution assez majeure de la place de Linux au sein du matériel informatique déployé partout chez les gens lambda, comme on dit. Et donc, à travers SteamOS. Donc, petit rappel, Steam, donc la plateforme de jeu propriétaire, hein, une plateforme fermée de l'éditeur Valve, mais Valve l'a rendu disponible sous Linux et utilise activement et développe et contribue activement à différents logiciels pour permettre d'utiliser les jeux Windows qui ont été diffusés sur Steam, sous Linux.
Donc ça nous aide quand même.
Ça aide à mort. Ils font un travail de malade, ils contribuent au noyau Linux, ils contribuent à différents logiciels libres, ils contribuent à plein de choses. Et ils ont sorti, il y a 2 ans, je crois, si je ne dis pas de bêtises, ils ont sorti le Steam Deck, une console portable avec un format qui ressemble un peu, je crois, à la Nintendo Switch. Je ne l'ai jamais eu dans la main, le Steam Deck, donc je ne pourrais pas dire. Mais donc, c'est une console portable, vous la démarrez, ça démarre un Linux, mais vous pouvez aussi, si ça vous chante, installer un Windows dessus, hein, ils sont pas fermés à ça, mais c'est votre problème si vous installez un Windows. Et dessus, ben, vous pouvez jouer à tous les jeux que vous avez sur Steam, et quasiment tous sont compatibles avec le Steam Deck. Et voilà, c'est une console portable qui tourne sous Linux, et qui est, en un bouton, vous avez accès à un bureau Linux, par contre, avec toutes les applications, et c'est un bureau KDE... tout à fait standard.
Ouais, un vrai Linux.
Un vrai Linux, tout à fait. Et donc, ben, sur les...
Et vous avez les droits route sur ce Linux?
Oui, bien sûr. Quelle question. Sinon, je le mettrais... Sinon, j'en parlerai pas, en fait, quasiment. Tellement ça m'énerverait. Mais, donc là, jusque-là, c'était bien, mais c'était pas non plus exceptionnel. Parce que, ben, il y a des concurrents, forcément, quand des entreprises comme Asus et Lenovo ont vu, tiens, ça a l'air de bien marcher, leur console, comme ça, parce qu'effectivement, il y a de nouveaux processeurs plus économes qui permettent de faire ce genre de console. Et ça fabrique des machines, ils vont en fabriquer des clones, ils vont fabriquer des concurrents. Et donc, on a vu le ROG Ally de Asus, le Legion Go de Lenovo, qui tournait sous Windows. Et ça marche moins bien. Les tests ont dit, ben ouais, c'est bien, mais en fait, ça ne vaut pas le Steam... Enfin, oui, sur certains éléments, ça ne valait pas le Steam Deck, parce que ben...
L'avantage à l'OC Libre, c'est que tu peux l'optimiser pour ta machine.
Voilà, et Valve va optimiser pas seulement pour sa machine, mais aussi pour l'usage. C'est important, parce que bah, Microsoft Windows, ces derniers temps, s'est optimisé plutôt pour... je sais pas, j'ai pas compris. J'ai pas compris vraiment ce qu'ils cherchent à obtenir.
Nous ne commenterons pas ici la politique commerciale de Microsoft.
Voilà, ces derniers temps, j'ai l'impression qu'ils optimisent plutôt pour vendre des abonnements, quoi. Ça marche moins bien. Et donc là, le gros changement qu'il y a eu ces dernières semaines, Valve a annoncé officiellement, ou plutôt Lenovo a annoncé, qu'ils vont sortir une nouvelle version de leur console Legion Go, la Legion Go S, officiellement sous SteamOS. Donc c'est-à-dire un partenariat avec Valve. Donc, à chaque fois qu'ils vont vendre une Legion Go S, il y a de l'argent qui va aller à Valve, hein, ça les arrange.
Donc, sous licence, voilà.
Sous licence. Mais voilà, c'est officiel, cette console fonctionne sur un système, cette machine fonctionne avec un système d'exploitation Linux.
À défaut du Linux sur le desktop, on a quand même Linux sur les consoles de jeu. Avant, c'était un peu un mode de pas dire pirate, mais c'était un hack, et maintenant, c'est officiel.
Voilà, et ça, et c'est quand même assez gros. Surtout que ben, la console va coûter moins cher sous Linux que sous Windows, parce que ben, la licence Windows coûte plus cher que la licence SteamOS. D'après les tests, il y a quand même pas mal de choses qui marchent mieux avec SteamOS qu'avec Windows, notamment en termes d'autonomie et de performance dans les jeux. C'est plutôt bien parti. Et là aussi, point que je trouve extrêmement positif, Valve a contribué au noyau Linux pour aider à la compatibilité avec ces consoles-là.
Vraiment, je sais pas, c'est comme Google, pour pas les citer, hein, qui s'approprie et puis après développe mais uniquement leur seul besoin.
On va une dernière parenthèse sur cette actualité-là. 2025, en plus, va être une année assez intéressante puisque ben il y a un gros problème, c'est que 60% des utilisateurs de Windows utilisent encore Windows 10.
Ils vont devoir changer de machine s'ils veulent continuer à utiliser Windows. Enfin, Windows supporté.
Voilà, ou risquer d'avoir des problèmes de sécurité à partir du 14 octobre 2025. Et la communication officielle de Microsoft là-dessus, c'est... Vous avez juste à acheter un nouveau PC ? C'est quoi la question ? Vous avez tous l'argent, bien sûr, pour acheter un nouveau PC, évidemment. Alors, si vous utilisez votre PC uniquement pour jouer, eh bien, petit élément supplémentaire, Valve a annoncé la disponibilité de SteamOS pour tout le monde. En système d'exploitation éventuellement installable, voilà, si tu le récupères, tu l'installes sur ta machine. Alors, c'est pas pour tout de suite, mais dans l'année, ils ont prévu de sortir ça. Si c'est le cas, ça pourrait vouloir dire quand même, vous avez un système que vous téléchargez, vous mettez sur votre PC, et ça transforme votre PC en console de jeu. Avec un système optimisé pour ça, fait par un éditeur qui travaille que sur ça, ça a l'air quand même assez prometteur, donc je suis assez content de ce qui se prévoit pour cette année sur ce front-là.
Donc c'est vrai qu'on a tendance des fois un peu critiquer les entreprises, autant Pierre beaucoup de choses, beaucoup de bien à dire de Valve.
Ouais, enfin, je cherche pas à en faire de la pub, hein. Des logiciels avec des protections contre la copie, il y a plein de problèmes du point de vue de
une
liberté
dernière actualité, on va finir avec un peu la fin d'une époque, puisque Tux Family, donc un projet d'hébergement de projet libre, est en train de mourir, hein, un projet qui datait de 99, donc beaucoup, souvent les gules aussi utilisaient Tux Family, donc les groupes d'utilisateurs de logiciels libres utilisaient Tux Family pour héberger leur site internet, et là maintenant ils ont dû carrément... déplacer vos projets ailleurs, on est en train de mourir, l'architecture matérielle qui est utilisée pour les serveurs est vieillissante, donc voilà. Ça va mourir de sa belle mort. Un petit sur l'agenda, et donc ce sera mardi pour ceux qui nous écoutent en direct, donc après-demain, donc Ch'tidev, donc un collectif de femmes qui travaillent dans la tech, organise une rencontre en non-mixité. Alors on a déjà dit ce qu'on en pensait, on aimerait que ça n'existe pas, qu'on n'en ait pas besoin, mais c'est hélas nécessaire pour que les femmes puissent communiquer en toute sérénité. Donc non-mixité, choisi sur le thème du libre, le 14 janvier 2025 à 18h30, donc c'est mardi, dans les locaux de tilleul.com, 82 rue Winston Churchill à Lille, enfin, ou l'homme, enfin, Aura Technologie. Donc, possibilité de vous joindre en ligne, c'est gratuit et l'apéritif est offert. On n'a jamais fait le coup du buffet campagnard, nous, à HTNUX.
On l'aurait vu.
Donc, vous pouvez retrouver donc, les informations sur l'agenda du libre ou sur. Alors, le lien est sur le wiki de HTNUX. Sinon, vous pouvez envoyer un mail à mobilizone.fr. Le groupe, c'est mobilizone.fr/@htdev. Sinon, vous allez sur l'agenda du libre ou sur wiki.htnux.org. Un petit entrefilet d'ailleurs. Merci donc à Arnaud. Donc, récemment, donc, l'infrastructure qui hébergeait donc le site de Ch'tinux donc s'est arrêtée, donc c'était la Fondation Free, et donc c'est maintenant le chaton lillois Raoul qui nous héberge. Donc autre petit point sur l'agenda, donc on va aller assez rapidement sur les prochaines
Il fait ça en direct, donc forcément, ça rame.
C'est ça, hein, ça rame. Et donc, atelier libre à vous, donc le samedi 18 janvier. Donc, ce sera à Villeneuve-d'Ascq, à l'OMJC, rue Yves de Cugis. C'était le 278e numéro de l'Écho des Gnous. C'était notre première émission de l'année. On a eu un grand plaisir à la présenter. J'espère que vous avez partagé le plaisir de l'écouter. Dans une semaine, vous avez rendez-vous avec la deuxième ligne, émission sur le jazz de la Nouvelle-Orléans. Quant à nous, on se retrouve dans deux semaines. Nous serons donc le dimanche 26 janvier à 19h. Ce sera l'Écho des Gnous 279 en direct, comme d'habitude. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de week-end. Vous avez tout de suite rendez-vous avec Chou Papimento. Au revoir à tous.
Au revoir. Bye bye.
Le libre n'est pas une jungle comme le logiciel privateur. L'écho des glous.